Quels que soient vos goûts littéraires, il y a sûrement un livre qui va vous plaire dans le choix que vont vous proposer Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Allez, honneur à Christelle, comme chaque semaine.
Ah, c'est gentil Eric. Mais écoutez, moi je vais vous parler cette semaine de deux éblouissements, tout simplement, avec un premier roman qui s'appelle « L'amant du lac » de Virginia Pessemapeo Bordelot aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez Eric, mais on avait eu la grande joie d'accueillir il y a quelques mois de cela Virginia à l'indépendante grâce à nos amis des éditions des paysages. Et donc, je ne connaissais pas ce roman d'elle, qui date un petit peu, mais qui est publié, je crois, pour la première fois en France. Et comme je vous le disais, c'est tout simplement un éblouissement. Et avant d'en parler plus précisément, je vais vous lire juste quelques lignes du prologue. Ce roman est un roman d'amour entre une Algonquine et un Métis, mais aussi d'amour de toutes sortes enchevêtré dans l'histoire des premiers peuples. Une histoire où règnent violence et colère, et surtout une histoire de plaisir des corps dans un monde qui n'a pas encore connu les pensionnats pour autochtones et les abus multiples des religieux sur les enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette époque, avant le clivage des esprits chez les Amérindiens, une époque où il était encore possible de vivre libre dans une nature vierge et grandiose en Abitibi. Voilà, quelques pages du prologue. Ça me semblait important parce que voilà, ce sont les mots de Virginia et j'avais envie de les citer en introduction. Alors, comme je vous le disais, ce roman, pour moi, c'est vraiment une merveille de lecture, un éblouissement de poésie, d'amour, de sensualité, mais aussi un témoignage sur le mode de vie des Algonquins, une communauté donc de peuples autochtones du Canada. Alors, l'histoire d'amour se situe autour du lac Abitibi. Et les premières pages qui décrivent l'arrivée de Gabriel sur son embarcation sont déjà d'une beauté, mais vraiment époustouflante. Hein. Sur ces quelques pages, le lac devient un personnage à part entière, je trouve. Et donc, tandis que Gabriel est vraiment en difficulté sur le lac, eh bien, les femmes algonquines, dans leur campement, proche du lac, le regardent se débattre avec les éléments en priant sur son sort. Alors, dès son arrivée dans cette communauté, le regard de Gabriel est happé par la chevelure rousse de Wabuguni. Et cette attirance, elle est immédiate et réciproque. S'ensuivent, encore une fois, des pages vraiment mais magnifiques sur leur relation charnelle et leur environnement. Alors, Wabuguni, elle est mariée et Gabriel, il est presque fiancé à une blanche. Mais voilà, bientôt, Gabriel devra repartir car en Europe, la guerre gronde. Je n'en dirai pas plus, sauf que, encore une fois, pour moi, vraiment, l'amant du lac fait partie dorénavant de ces histoires d'amour, vraiment, que l'on n'oublie pas, de ces histoires intemporel, mais bien entendu, comme d'ailleurs dans le précédent roman que nous avions lu de Virginia, l'autrice va aussi un peu au-delà, car il y est également question d'histoire de ces peuples, de la vie d'avant l'arrivée des religieux blancs, des pensionnats, notamment avec le personnage de la grand-mère. Alors pour finir, je ne peux vraiment que recommander la lecture de ce roman, mais vraiment magnifique, éblouissant, cette histoire d'amour magnifique dans lequel l'autrice joue à merveille avec les métaphores, et aussi elle crée un rythme de lecture en fait avec en lien avec les événements et l'environnement. Vraiment, donc gros coup de cœur que ce court roman, hein, à peine 140 pages, L'Amant du Lac de Virginia PC-Mapeo Bordelot aux éditions Mémoire d'Encrier, et en plus de ci, de là, il y a quelques reproductions de dessins de l'autrice, puisqu'elle est également artiste peintre. Voilà, donc L'Amant du Lac, chaleureusement recommandé.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors moi, je vous embarque cette semaine pour un roman historique que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous parler du roman Terre de Feu, du romancier et journaliste allemand Michael Hugentobler aux éditions Hélice Hélas. Alors, ce roman Terre de Feu, c'est un roman avant tout historique, puisqu'il raconte l'histoire absolument incroyable d'un livre, le dictionnaire anglais Yamana. Alors, rassurez-vous, il y a deux semaines, comme vous, je ne connaissais pas du tout le peuple Yamana. Le peuple Yamana, c'est un peuple autochtone qui vit vraiment en Patagonie, dans le sud de la Patagonie. Et donc, à la fin du 19e siècle, un missionnaire britannique, Thomas Bridge, qui a découvert cette région enfant et qui a découvert et a été complètement fasciné par ce peuple et sa langue, a rédigé pendant des années un dictionnaire donc anglais Yamana qui était unique au monde. Or, ce dictionnaire, il a eu une histoire incroyable puisqu'il a été ensuite conservé par un linguiste autrichien qui s'appelait Ferdinand Essermann. Et cet homme, qui était passionné par les langues et passionné par l'ethnologie, a senti, il vivait en Autriche, en 1938, il a senti la menace parce que effectivement, c'était un moment où le régime nazi commençait à détruire un certain nombre d'ouvrages, et notamment les ouvrages d'ethnologie qui n'allaient pas dans le sens de leur idéologie complètement délirante sur les races et sur l'humanité. Et donc ce professeur, il a entrepris un voyage avec ce dictionnaire dans ses bagages, pour aller le mettre à l'abri en Suisse, en Helvétie à l'époque. Et il a également emmené d'autres ouvrages d'ethnologie pour sauver une collection. C'est ça que raconte ce livre. Il raconte le sauvetage de ce livre dans les conditions, effectivement, le voyage du Reich vers la Suisse avec tout, vous imaginez, toutes les péripéties et la menace. Mais il va raconter également la vie fascinante de ce Thomas Bridge qui a donc, à la fin du 19e siècle, s'est imprégné complètement de cette culture et ce peuple Yamanas, parmi lesquels il a vécu de nombreuses années. Bref, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre avec lequel vous vibrez, vous réfléchissez, vous voyagez du sud de la Patagonie au Troisième Reich, enfin au Reich allemand en Suisse, vous voyagez dans le temps et dans l'espace. C'est pas ce à quoi sert la littérature, je pense que c'est ça. Donc c'est vraiment un très bel objet de littérature parce que vraiment, ce livre vous emporte, il vous fait réfléchir, il vous remue. Moi, j'ai adoré, c'est vraiment magistral, je conseille. C'est un livre assez court. En plus, un petit mot, alors c'est difficile à la radio, un petit mot, l'objet est vraiment très soigné. Hein. C'est vrai que les éditions Hélice Hélas, qui publient quelques livres par an, vraiment font un travail très soigné et ont de très très belles couvertures, très sobres, mais très jolies. Voilà, donc vraiment, je conseille, soyez curieux ou curieuse et partez avec Michael Hugentobler et les personnes qu'il décrit, notamment au sud de la Patagonie. C'est vraiment un voyage en littérature particulièrement remarquable. Donc je répète le titre, Terre de Feu de Michael Hugentobler aux éditions Hélice Hélas.
Voilà, le micro circule dans cette émission. Je reviens à Christelle.
Et oui, vous voyez, finalement, on ne s'était pas concerté avec Sylvain, mais avec Virginia, on partait en Amérique du Nord. Là, on est en Amérique du Sud et vraiment au Sud-Sud. Et moi, je vous ramène en Amérique du Nord avec, comme je vous le disais en introduction, un autre éblouissement et surtout une grande impatience, puisqu'il s'agit du roman de Jean Egeland qui s'appelle Le Temps d'après. Et donc, comme beaucoup, je pense, bien, je gardais un souvenir mais vraiment exceptionnel de son premier livre, enfin en tout cas du premier livre que j'ai lu de Jean Egeland qui s'appelle Dans la forêt, avec les deux sœurs Eva et Nell, survivantes d'un monde en ruine et qui vont faire preuve d'une grande résilience pour s'en sortir. Donc, comme beaucoup, j'attendais quand même avec beaucoup d'impatience la suite. Et avec le temps d'après, eh bien, autant vous dire que je n'ai pas été déçue et que j'ai adoré, tout comme le premier. Alors, cette suite, puisque c'est une suite, là, franchement, il est difficile quand même de lire celui-ci sans avoir lu le premier. Eh bien, elle offre malgré tout une perspective nouvelle, puisque le narrateur, c'est Burl, le fils d'Eva et Nell. Et la narration se fait au travers de ses yeux et de son regard d'enfant, et d'un enfant né quand même dans un monde post-apocalyptique. La forêt devient vraiment un univers vibrant, familier et mystérieux. Et c'est là aussi, je trouve, effectivement, la grande trouvaille de Jean Egeland. Même si ça déstabilise un petit peu au début, Burl a aussi son propre langage, fait d'orthographes réinventés et de mots transformés. Donc, je vous dis, au début, il y a un petit temps d'acclimatation, finalement, mais c'est très agréable, et puis c'est surtout, en fait, d'une grande originalité, et ça apporte vraiment une richesse supplémentaire au roman. Alors, la narration du quotidien dans, je cite, la capanne, est d'une telle richesse qu'elle permet une vraie immersion au plus près de cette famille particulière, comme préparer un repas à partir de la cueillette, inventer des histoires au coin du feu ou chasser dans le silence protecteur des arbres. Alors vous me direz, et c'est tout, on s'arrête là? Eh bien non. Parce que un jour, Burl et Eva et Nell aperçoivent au loin, sur une colline, une fumée qui est aperçue donc dans le lointain. Alors, je n'en dirai pas plus. Je laisse découvrir la suite de ce merveilleux roman dans lequel l'accent est vraiment mis, je trouve, sur la transmission des deux sœurs concernant la nature et la forêt. C'est un appel à la protection du vivant, et dans une langue extrêmement poétique, tout en étant concise et extrêmement originale, car, comme je disais, parfois totalement réinventée. Eh bien, avec le temps d'après, Jean Egeland nous coupe le souffle et nous offre vraiment une véritable ode à la nature, à la forêt, et combien il est essentiel de préserver cet équilibre. Donc, je répète, Le Temps d'après de Jean Egeland aux éditions Gallmeister, avec, comme vous le voyez, cette magnifique couverture, comme très souvent chez Gallmeister, avec Burl et cette fumée que l'on aperçoit dans le lointain.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, si vous me permettez, je vais commencer par trois petits extraits que je vais vous lire. Et ce qui étonne dans cette guerre, c'est la réussite inouïe du culot. Dont on doit retenir une chose, le monde cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s'il ne cède jamais à l'exigence de justice, s'il ne plie jamais devant le peuple qui s'insurge, plie devant le bluff. Autre extrait que je trouve intéressant. C'est curieux comme jusqu'au bout les tyrans, les plus convaincus, respectent vaguement les formes, comme s'ils voulaient donner l'impression de ne pas brutaliser les procédures, tandis qu'ils roulent ouvertement par-dessus tous les usages. On dirait que la puissance ne leur suffit pas et qu'ils prennent un plaisir supplémentaire à forcer leur ennemi d'accomplir une dernière fois, en leur faveur, les rituels du pouvoir qu'ils sont en train d'abattre. Troisième extrait et ensuite je vous explique. Cette invite, certes un peu cavalière, n'avait rien de nouveau pour ces hommes. Ils étaient coutumiers des pots de vin et des dessous de table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises. Cela porte plusieurs noms, lobbying, étrenne, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers. Alors, est-ce que je vous parle d'un extrait d'un article que j'aurais lu la semaine dernière décrivant une réalité géopolitique ou une analyse politique quelconque, outre-Atlantique ou ailleurs? Eh bien non, en fait, je vous lis un extrait d'un petit livre que le romancier français Éric Vuillard a fait paraître en 2017, mais qui, pour moi, est vraiment d'actualité, qui s'appelle « L'ordre du jour » et qui était paru chez Actes Sud et qui est maintenant disponible en Babel Poche, donc l'édition Poche d'Actes Sud. Alors, dans ce court récit, un peu plus d'une centaine de pages, Éric Vuillard, en fait, relate différents épisodes de l'histoire entre 1933 et 1938 où différents acteurs, qu'ils soient économiques ou politiques, ont cédé aux nazis et entraîné leur prise du pouvoir et facilité leur prise du pouvoir. Tout y est décrit, compromission et intérêt, lâcheté, parfois absence de vision et de jugement sur ce qui était véritablement en jeu. On a vraiment tout ça sous les yeux par petits épisodes, notamment un des extraits, la réunion d'un groupe industriel allemand qui ont été convoqués par les responsables nazis en 1933 au Reichstag pour leur demander, ni plus ni moins, de financer leur campagne électorale, ce qu'ils ont fait par intérêt économique au nom de la stabilité politique. Et puis ensuite, on assiste à différents actes de faiblesse pure et de manque de jugement, notamment une visite que fait le chancelier anglais à Hermann Göring, où il ne voit absolument pas le personnage qu'il a en face de lui en 1938. Et alors là, encore plus pathétique, vous avez la visite du chancelier autrichien à quelques jours de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, qui est complètement vassalisé, qui est maltraité dans le bureau d'Hitler, là aussi. Quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce qu'on a, au spectacle auquel on a assisté il y a quelques jours, sous d'autres cieux. Et ce personnage va rentrer en Autriche, et quelques heures après, effectivement, l'irréparable va être commis. Bref, vous l'avez compris, je pense que ce livre est à lire ou à relire en ce moment, pour une piqûre de rappel, c'est très intéressant. En plus, l'écriture d'Éric Vuillard, elle est très claire, très précise, elle est très belle. Et il décrit également les dessous, les ressorts psychologiques également, parce qu'on parle aussi d'individus. Voilà, bref, j'avais envie de vous parler de ce livre. Alors, effectivement, qui a quelques années, qui est en poche, mais qui vraiment, à mon avis, est une lecture qui peut être malheureusement inspirante ou en tout cas qui fait réfléchir sur l'histoire, sur le sens de l'histoire et puis également sur une certaine actualité. Donc je vous rappelle le titre, Éric Vuillard, L'ordre du jour aux éditions Actes Sud et la collection Babel.
Merci Sylvain. Christelle, nous allons voir à présent les animations ici à la librairie indépendante à Saint-Gaudens.
Alors, à noter, la rencontre le samedi 22 mars à 18h30 avec la romancière, essayiste Marcia Burnier pour l'ensemble de ses récits, romans, essais. C'est une grande joie pour nous que de l'accueillir. Et c'est aussi l'occasion d'une mise en avant des éditions Cambourakis, qui fête d'ailleurs sa collection sorcière cette année. Donc voilà, une belle mise en avant avec la venue de Marcia Burnier. Et puis... après, en avril, on aura le plaisir de se retrouver et de retrouver un certain nombre d'événements et d'animations avec le Festival de littérature jeunesse, le Festival Vitamine L à Saint-Gaudens, donc du 8 au 12 avril.
Sylvain ?
et puis nous en reparlerons d'ici là. Mais fin avril, on est en train de caler une nouvelle date. Enfin, le club manga va reprendre, parce que voilà, on avait eu une petite interruption, voilà, pour des questions de calendrier. On est en train de caler la date, mais probablement fin avril, il y aura une nouvelle réunion du club manga, toujours sur les mêmes principes. Et donc voilà, on se réjouit à nouveau de à nouveau réunir ses fans et ses passionnés, ou moins d'ailleurs, hein, des gens simplement curieux autour de l'univers du manga et de l'animé japonais.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. À la semaine prochaine.